140 pages, 10 axes de travail, NCECO a présenté ce matin sa contribution pour l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. Malgré quelques averses, le temps sec devrait se poursuivre jusqu'à mi-novembre et avec lui aussi le risque d'incendie. Un marché de Noël des artisans, place des Cocotiers. Il aura lieu du 14 au 23 décembre. Une nouveauté et une convention a été signée ce matin entre la CMA et la mairie. En Espagne, la région de Valence de nouveau en alerte rouge. De nouvelles précipitations sont attendues après les crues meurtrières qui ont fait 217 victimes. J-2 avant le vote pour la présidentielle aux USA. Dans leur dernier meeting, Kamala Harris et Donald Trump ne se ménagent pas. Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Quelques infos sports que nous développerons tout à l'heure dans le magazine des sports du lundi. Michael Juneski, on va commencer par la Formule 1 avec un drôle de Grand Prix au Brésil et des Français qui ont brillé.
Un air de samba pour les drapeaux jaunes et rouges, mais les pilotes n'étaient pas à la fête sous le déluge d'Interlagos. Qualification chaotique, course largement perturbée par une pluie diluvienne qui aura tout de même permis de voir Verstappen renouer avec la victoire et surtout les deux Français, Ocon et Gasly, compléter le podium. C'est une grande première pour l'écurie Alpine Renault.
Des Français qui ont brillé aussi en tennis au Masters 1000 de Paris-Bercy.
Il n'a pas gagné le titre, mais il a conquis le cœur du public français. Hugo Humbert a réalisé un beau parcours jusqu'à la finale de ses Masters. Il a dû laisser le titre à un Alexander Zverev bien trop fort dans l'ultime rendez-vous. Mais le tricolore prouve que le tennis français pourrait bientôt, après une longue attente, retrouver un champion dans les grands rendez-vous.
Et puis nous défilerons évidemment les principaux résultats sur la scène locale et nous parlerons VTT.
Oui, Pro Evens qui tient un événement pour son grand retour samedi prochain à Bouraï. La Deva VTT qui conclura le Destination Province Sud VTT Pro Tour, mais aussi un trail en bonus, la Sunset Stash, où tous les participants pourront courir avec une moustache, ça vaudra le détour. Double rendez-vous donc qui était attendu de tous les amoureux de sport en pleine nature. Nous en parlerons avec Julie Prunet, l'organisatrice, mais aussi deux participants, David Esposito et Caroline Favier.
Le magazine des sports du lundi a retrouvé à la fin de ce journal l'autre rendez-vous du lundi. C'est bien sûr la chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir que l'on retrouve tout de suite.
La semaine s'est terminée sur une note d'optimisme avec un parfum de retour à la normalité. Près de 6 mois après sa mise en œuvre, le couvre-feu est repoussé à minuit. C'est l'amélioration progressive des conditions de sécurité observées depuis plusieurs semaines sur l'ensemble du territoire qui a conduit à cet assouplissement. Et c'est vrai que les choses vont mieux, excepté bien sûr pour les habitants du sud Mondor qui n'ont toujours pas retrouvé des conditions de vie normales en raison de la persistance des tensions à Saint-Louis. Excepté aussi les incendies, encore un peu trop nombreux, déclenchés ici ou là de manière intentionnelle. Mais l'on est loin des épisodes de violence intense qu'a connu la Nouvelle-Calédonie. Le mouvement insurrectionnel semble avoir été maté et son organisation démantelée. Le territoire est aujourd'hui sous contrôle, avec une présence encore très importante des forces de l'ordre, dont on nous assure qu'elles resteront le temps nécessaire. C'est un signe fort quand on considère les besoins qui peuvent exister ailleurs, en métropole et outre-mer. Ce retour à l'ordre était une phase nécessaire pour passer aux suivantes. La reconstruction de l'économie, qui est une mission titanesque après le cataclysme qui l'a frappée, et l'ouverture des discussions politiques, qui est une tâche au moins aussi gigantesque et colossale. À ce titre, la semaine qui commence devrait comporter plusieurs éléments importants avec la tenue des traditionnels congrès indépendantistes et avec la venue de la mission de concertation et de dialogue conduite par les présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale, Gérard Larcher et Yael Braun-Pivet. Ils viennent voir comment ils peuvent rouvrir le dialogue avec toutes les parties pour essayer de déterminer une feuille de route. Et on leur souhaite bien du courage parce que leur objectif, c'est mission impossible et qu'il leur faudra faire preuve de beaucoup de diplomatie, de patience et de détermination. Ils doivent déjà avoir conscience que l'on ne peut plus se contenter d'une volonté de renouer le dialogue. La formule tient du mantra ou de l'incantation, mais elle ne correspond plus à la réalité ni aux besoins. Le dialogue n'a pas été dénoué ou distendu. Depuis le 13 mai, il a été rompu, cassé, détruit et rendu quasiment impossible. Et il suffit pour s'en convaincre de lire la prose indépendantiste au travers de ses nombreux communiqués ou des discours prononcés par ses leaders. Près de 6 mois après le déclenchement des violences insurrectionnelles, une partie des indépendantistes ne veut pas reprendre le dialogue. Les plus radicaux d'entre eux sont restés bloqués sur leur refus insensé de l'ouverture du corps électoral et ils n'ont pas progressé. Le président de l'UC salue ainsi la véritable grande victoire de la CCAT qui a rempli l'objectif qui lui était assigné en obtenant l'arrêt immédiat du processus de dégel du corps électoral. Ces indépendantistes radicalisés ne veulent de toute façon parler qu'avec l'État, et ils fixent comme seul plancher de négociation l'accession à l'indépendance. Ils font l'impasse sur le troisième référendum qui acte la défaite de leurs revendications, avec la volonté exprimée à trois reprises par les Calédoniens de rester français. Ils font l'impasse sur l'accord de Nouméa, qui déclare que si le non à l'indépendance l'emporte à l'issue des trois référendums, les partenaires se retrouvent pour examiner la situation ainsi créée. Et pourtant, pour respecter l'accord de Nouméa, qui survit bien après sa date de péremption, il faudra repartir sur cette base. Seul le résultat du 12 décembre 2021 peut aujourd'hui servir de socle de discussion et permettre de renouer un hypothétique dialogue. Et si le retour à l'ordre public a nécessité 5 mois, on se demande quel délai il faudra pour trouver une solution politique.
La chronique de la semaine écoulée d'Elisabeth Noir à retrouver, évidemment, comme chaque semaine sur notre site internet. Vous pouvez aussi la réentendre juste après le flash de 16h cet après-midi. Et puis notez que nous sommes aujourd'hui le 4 novembre. Le 4 novembre 2018 avait lieu le premier des trois référendums de sortie de l'accord de Nouméa. Cela fait donc 6 ans jour pour jour.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure de votre rendez-vous SMS. Voici notre question du jour. Êtes-vous satisfait de l'allègement du couvre-feu qui prend désormais effet à minuit au lieu de 22h ? Si vous êtes satisfait de cet allègement, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Et vous envoyez votre réponse au 3146. NCECO présente sa contribution à l'avenir du territoire ce matin. Les acteurs économiques ont publié pour cela un document de 140 pages, Nicolas Legrand.
Oui, 140 pages, 10 grands axes accompagnés de propositions concrètes. NCECO s'était donné pour objectif de mettre l'économie au centre du modèle de la Nouvelle-Calédonie. C'était au moment du troisième référendum. Alors forcément, depuis le 13 mai, les organisations patronales et les chambres consulaires ont revu leur copie. Écoutez Mime Sidélé, la présidente du MEDEF.
C'est un catalogue, mais qui est très cohérent, en fait. On a mis dans ce travail, qui est considérable, hein, qui a rassemblé des centaines de chefs d'entreprise, vraiment une vision sociale et économique du territoire, avec des propositions très concrètes dans 10 secteurs différents, et qui permettent, en fait, d'avancer et de reconstruire, à notre sens, une économie durable et soutenable pour le territoire.
Et parmi les 10 axes proposés par NCECO, un préalable, celui de réduire les dépenses publiques. Écoutez David Guyenne, le président de la CCI.
Sans réduction des dépenses publiques, hein, c'est un préalable du monde économique pour pouvoir s'engager dans les travaux, qu'ils soient auprès du gouvernement, comme du Congrès, comme de l'État. Sans réduction des dépenses publiques, nous n'allons pas pouvoir permettre une attractivité de la Nouvelle-Calédonie. Nous n'allons pas pouvoir permettre une soutenabilité de l'économie calédonienne avec la perte de 20% du PIB suite aux émeutes. Tout simplement, nous n'avons plus les moyens d'assurer ce coût du service public. Et donc, nous devons prioriser qu'est-ce qui est important aujourd'hui, comment on peut faire autrement, soit en éliminant des services publics, soit en mutualisant des services publics, soit en les rendant plus performants, ou soit même parfois en privatisant certaines activités.
Et l'objectif est donc de réduire ces dépenses publiques en les ramenant de 20 à 12% du PIB en 5 ans. Alors il y a de nombreuses mesures, notamment simplifier la gouvernance au niveau des institutions, inclure tous les Calédoniens dans les efforts de reconstruction ou encore rendre la Nouvelle-Calédonie plus attractive. Et puis NCECO n'en oublie pas non plus les mesures d'urgence pour sauvegarder les entreprises, les emplois, mais aussi le pouvoir d'achat des Calédoniens et le modèle de protection sociale. Nicole Moreau est la présidente de la CPME.
On a demandé à ce que tout du moins l'aide de l'État continue au moins jusqu'à la moitié de l'année prochaine parce qu'on ne peut pas l'arrêter là au 31 décembre. Le chômage partiel ne peut pas s'arrêter, on ne peut pas mettre tout le monde à la porte d'un seul coup. Et puis il faut quand même qu'on remplisse les caisses sociales et fiscales, et il faut que les entreprises fonctionnent pour payer leurs dettes et donc il faut absolument que ça continue, quoi. On a demandé l'étalement des charges sociales et fiscales, mais pour l'instant, ça ne pose pas de problème. C'est accepté très facilement.
Alors, au-delà de la demande de la prolongation du chômage partiel jusqu'à mi-juillet 2023 et ce report des charges sociales, NCECO demande aussi tout un travail au niveau des assurances, mais aussi la défiscalisation pour tous les investissements de reconstruction et bien sûr le maintien des forces de l'ordre pour permettre la reprise de l'économie en Nouvelle-Calédonie. Un document donc de 140 pages proposé par NCECO qui a été envoyé à l'ensemble des institutions et qui sera disponible également pour le grand public sur Internet.
Il est 11h40, une première pause dans ce journal. Dans un instant, le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Problème articulaire, perte de mobilité, découvrez l'innovation du laboratoire Pur Essentiel, les gélules SOS Flex, le premier complément alimentaire articulation et muscles qui agit pour préserver durablement votre confort articulaire et maintenir votre mobilité. Une gélule par jour suffit grâce à sa formule ultra concentrée 100% naturelle. Pour vivre intensément votre quotidien, le complément alimentaire Pur Essentiel SOS Flex. En pharmacie, Pur Essentiel, l'efficacité à l'état pur.
L'Amérique fracturée. L'Université de la Nouvelle-Calédonie vous invite à une conférence publique exceptionnelle pour décrypter l'élection présidentielle américaine le mercredi 6 novembre à 18h en Amphi 400 du campus de Nouville. Passionnés de politique et des enjeux internationaux ou simplement curieux d'en savoir plus sur l'élection présidentielle américaine, venez échanger. Rendez-vous à l'Université de la Nouvelle-Calédonie le mercredi 6 novembre à 18h en Amphi 400. Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles. Plus d'infos sur unc.nc.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Des conditions météo toujours préoccupantes. Le phénomène de sécheresse est particulièrement marqué sur la côte ouest actuellement et selon les dernières prévisions, l'arrivée de précipitations n'est pas attendue pour les prochains jours. Écoutez Alexandre Pelletier, c'est le responsable de la division climatologie au Centre Météo France de Nouméa.
On est encore sur un mois d'octobre où on enregistre à peu près 20% de déficit par rapport à la normale. On est autour de 50 mm de précipitations pour le mois d'octobre à l'échelle du pays. Donc on est sur une période relativement sèche. Quand on accumule un peu les déficits des trois derniers mois, on voit qu'on est dans une situation qui est quand même préoccupante. Il y a aussi également au vent qui est particulièrement soutenu en ce moment. De l'alizée, les brises de mer, tous les ingrédients voilà, pour assécher le couvert végétal comme on peut le voir actuellement. Pour cette semaine, bon, on devrait avoir une situation un peu similaire à ce qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire peut-être dans un haut des débordements nuageux avec quelques averses éparses. Mais grosso modo, c'est plutôt un temps sec qui s'annonce pour cette semaine. On guette un peu, hein, comme le lait sur le feu, le retour des précipitations. Donc malheureusement, à l'horizon, on ne voit rien venir pour la première moitié du mois de novembre. On a une interrogation sur la deuxième moitié où il semblerait qu'il y ait une reprise des précipitations qui se dessinent à l'échelle du bassin pacifique sud-ouest, donc qui est à surveiller avec des précipitations. On ne peut pas dire avec quelle ampleur et précisément le timing, mais c'est un peu les indices qu'on a quand on analyse les modèles de prévision. Et toujours sous l'égide, on espère, donc la Niña qui devrait démarrer. C'est un phénomène qui se déroule au niveau du Pacifique équatorial. C'est à plus de 6000 km de chez nous, hein. C'est quand même loin. Une fois qu'il est en place, ce La Niña, ça module l'activité pluvieuse sur la Nouvelle-Calédonie. Donc là aussi, ça devrait amener un petit boost au niveau des précipitations.
Voilà pour ce point complet avec Alexandre Pelletier du Centre Météo France de Nouvelle-Calédonie. Ces quelques averses rares pourront encore être observées dans les prochains jours. Notez que les communes de Païta jusqu'à Pointe-Boute sur la côte ouest ainsi que Thio sur la côte est sont placées aujourd'hui en risque très élevé face aux feux de forêt. Dans le reste de l'actualité en Calédonie, des féeries de Noël en format réduit cette année à Nouméa. Avec la crise que traverse le territoire et les coupes dans les budgets, la municipalité a donc dû s'adapter, Léo Fichou.
Et oui, mise en place pour la première fois en 2014, ces féeries de Noël vont effectivement connaître une édition réduite cette année, mais ne seront pas annulées. Il n'y aura pas de feux d'artifice, pas d'artistes internationaux non plus. Mais malgré les difficultés financières, Madame le maire, Sonia Lagarde, a voulu innover et mettre en avant les artistes et surtout les artisans locaux.
Des changements qui s'imposent à nous. Nous avons dû faire des grosses coupes sombres dans notre budget puisque aujourd'hui l'argent est très rare et très cher. Il y aura quand même des spectacles pour les enfants pendant une dizaine de jours au kiosque à musique. Les arbres seront quand même illuminés. Et puis, pour corser l'événement, on a mis gratuitement à disposition de la CMA un village de Noël sur la place de la Marne avec plusieurs dizaines d'artisans.
C'était donc l'objet de cette convention signée ce matin par Sonia Lagarde, maire de Nouméa, donc, et Elisabeth Rivière, présidente de la CMA. Un village de Noël au cœur de la place de la Marne du 14 au 23 décembre. Une manière de soutenir les artisans locaux. On écoute Elisabeth Rivière, présidente de la CMA.
Ça permet à nos artisans d'être associés à la féerie de Noël, où nos artisans vont être là à tour de rôle. Ils vont pouvoir vendre leurs produits, mais aussi passer un moment féerique pour eux, parce que pendant toute cette période, ça a été très très dur. Et ils vont pouvoir écouler l'ensemble de leurs produits qu'ils n'ont pas pu écouler depuis le 13 mai et qu'ils ont, pour certains, stockés depuis un moment. Là, dans le contexte, beaucoup de fêtes n'ont pas pu avoir lieu, notamment la fête des mères, où les artisans vendaient énormément de leurs produits. Donc on espère qu'ils vont pouvoir retrouver une partie des ventes sur Noël.
Féerie de Noël oblige, le Père Noël sera lui aussi de la partie le 24 décembre à Nouméa, mais pour le moment son arrivée et son programme restent secrets.
L'inquiétude des sages-femmes libérales, la profession est en perdition selon leur syndicat professionnel. L'insurrection a fragilisé encore davantage la corporation qui alertait déjà sur cette situation avant le 13 mai. Aujourd'hui, en raison du manque de professionnels sur le territoire, l'activité est très importante et la qualité de soins s'en trouve dégradée. Une situation qui inquiète donc Valérie Lescroart, présidente du syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie.
On est dans des conditions de travail qui sont très dégradées. Suite aux émeutes, on a eu le départ quand même de plusieurs collègues. Donc on a deux cabinets confirmés sur Nouméa. On en a un Grand Nouméa, un en Brousse. Quatre départs, sachant qu'on n'est que 30 libérales, hein, donc c'est quand même déjà pas mal. Il n'y a pas assez de sages-femmes et c'est surtout, on s'inquiète justement qu'il y en ait d'autres qui partent parce que pour l'instant, on tient le choc comme on peut. On a fait un petit sondage rapidement avec les autres collègues et sur celles qui restent, encore 50% qui se tâtent encore à prendre une décision de départ d'ici 6 mois.
Et même de reconversion ?
Oui, là sur les cabinets qui ont fermé, là il y en a deux qui cherchent à se reconvertir, je pense un peu écœurés par les conditions de travail et qui ne veulent plus travailler dans ce domaine-là. Quoi.
Et le manque de professionnels, notamment en province nord, a déjà engendré des drames.
Ma collègue dans le nord, là, elle nous expliquait qu'effectivement il y avait pas mal donc, d'accouchements inopinés. On a eu des patientes aussi qui ont été transférées un peu dans l'urgence alors qu'il n'y a plus de SAMU, etc. Avec parfois des patientes qui arrivent bien trop tard. Il y a déjà eu donc effectivement des décès de bébés qui sont parfois pas forcément mis sur le compte des émeutes, alors qu'on se rend bien compte que l'allongement des délais de transport, etc., ça pénalise vraiment les chances, le pronostic pour les patientes. Et puis effectivement, c'est tous les jours des drames que constatent nos confrères gynécos avec des patientes qui arrivent avec des cancers très très avancés, de patientes qui n'ont pas osé ou qui n'ont pas pu consulter. Et ça, pour nous, c'est toujours difficile. C'est pas facile d'avoir l'impression de travailler en médecine de guerre, entre guillemets. Si on peut pas s'équiper, si on n'est pas payé par les aides médicales. Et du coup, bah, tout ça, ça pénalise la qualité des soins, c'est sûr.
Le syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie espère maintenant, comme nous l'a dit Valérie Lescroart, qui était donc notre invitée ce matin, être entendue par les institutions pour redonner de l'attractivité à la profession.
On demande une prise de conscience aussi hein, du fait que bah, si on veut avoir un niveau de santé en Calédonie qui se maintienne, parce que là, nous, on a cette certitude qu'on avance vers une crise sanitaire aussi, hein, qu'il faut aussi montrer qu'ils sont là derrière, entre guillemets, et puis qu'ils vont aussi nous aider à faire notre travail correctement. C'est ça qu'on demande.
Avec une revalorisation aussi des actes ?
Avec une revalorisation pour pouvoir justement s'équiper correctement, avec aussi le passage de textes qui sont en attente depuis des années par rapport à l'IVG notamment.
Et aujourd'hui, vous êtes entendu ?
Pour l'instant, c'est difficile d'avoir des réunions parce qu'on a un gouvernement qui est très occupé, ce que je comprends. Et du coup, bah, on a la CAFAT qui doit statuer sur nos demandes le 7 novembre, donc on croise les doigts.
Valérie Lescroart espère que le cri d'alarme lancé par le syndicat des sages-femmes de Nouvelle-Calédonie sera entendu. Elle n'envisage pas, dans la situation que connaît la Calédonie, de lancer pour l'instant un mouvement de grève pour obtenir gain de cause. Une interview que vous pouvez retrouver en podcast audio et vidéo sur notre site internet. Dans quelques secondes, il sera 11h50. On se retrouve après une pause pour évoquer l'actualité en métropole et dans le monde.
RRB, 11h-13h, Infomag, Jean-François Bodin.
Laissez-vous séduire par le nouveau Hyundai Santa Fe Hybrid, un SUV qui allie élégance et puissance sur la route. Profitez de son espace généreux et de son intérieur luxueux, conçu pour offrir un confort optimal. Avec sa motorisation hybride, le Santa Fe combine puissance et réduction des émissions, idéal pour vos aventures et déplacements quotidiens. N'attendez plus pour vivre cette expérience unique. Rendez-vous dans notre showroom Hyundai à Ducos pour découvrir le nouveau Santa Fe ou réserver un essai sur notre site hyundai.nc.
Urgence, pouvoir d'achat.
Chérie, tu savais que l'Hyper Upa Ita était enfin ouvert ?
Et qu'on pouvait gagner plus d'1 million de francs de cadeaux ? Bien sûr ! Venez découvrir votre nouveau Hyper Upa Ita et jusqu'au 10 novembre, tentez de gagner plus d'1 million de francs de cadeaux. Pour participer, rendez-vous en magasin pour remplir le bulletin de jeu sur l'une des bandes de jeu ou en scannant le QR code. Hyper U, sortie Upa Ita Centre. Suivez toutes nos actualités sur notre page Facebook Hyper Upa Ita NC. Jeux sans obligation d'achat, voire conditions en magasin, tirage sort le 12 novembre. Hyper U, la qualité notre métier, le prix notre priorité.
U, commerçant, autrement.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
L'actualité nationale et internationale, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Et on va commencer par l'actualité à l'étranger. La région de Valence en Espagne n'en a pas encore fini avec les intempéries. Mardi dernier, les trombes d'eau qui se sont abattues en quelques heures dans la région ont causé la mort d'au moins 217 personnes et ont fait des dégâts considérables. Mais toute la région est de nouveau placée en alerte rouge avec de nouvelles précipitations prévues. Anthony Kazmarek est le spécialiste météo d'Europe 1.
Il a déjà plu sur le nord de la région de Valence. Mais c'est dans le sud de cette région que la situation risque d'être la plus critique dans les prochaines heures. On attend jusqu'à demain matin des orages stationnaires qui pourraient déverser d'immenses quantités de pluie en peu de temps. Peut-être 2 à 3 mois de pluie en une heure seulement. Et d'ici à demain soir, le cumul total pourrait avoisiner les 4 ou 5 mois de pluie en 24 heures. 200 litres d'eau par mètre carré. Alors certes, c'est 3 fois moins que ce qu'il est tombé mardi dernier, mais évidemment, ces pluies vont tomber sur des sols saturés et des régions déjà dévastées, donc grande vigilance dans les prochaines heures.
Le roi d'Espagne, Felipe VI, s'est rendu auprès des sinistrés de Paiporta, la ville la plus touchée, mais il a dû faire face à leur colère, accueillie par des jets de boue et des insultes, une visite qui passe mal auprès de certains habitants.
Non, c'est de la merde. Prendre la photo pour être joli, de dire on a tout résolu. C'est un sale mensonge. Et ne viens pas prendre une photo pour dire « ne t'inquiète pas, nous allons tout résoudre, tout est un mensonge ».
Il faut comprendre leur colère et leur frustration, a déclaré le roi Felipe VI après sa visite à Paiporta. Aux États-Unis, les deux candidats à la présidentielle sont toujours au coude à coude dans les sondages, à 2 jours maintenant du scrutin, et se rendent coup pour coup dans leur dernier meeting. Kamala Harris est bête comme ses pieds avec un QI faible, a déclaré Donald Trump. Trump est un fasciste à l'esprit vengeur, a répliqué la candidate démocrate. Une fin de campagne acharnée alors que les Américains doivent voter demain. Eux sont préoccupés par leur quotidien et notamment par la flambée des prix qui a marqué l'arrivée au pouvoir de Joe Biden. Cette question pourrait bien faire basculer les États-clés comme la Géorgie. Le reportage de Caroline Baudry pour Europe 1.
Trump, prix bas, Kamala, prix élevé. Le slogan du candidat républicain résume la pensée d'Ina, 78 ans, qui sort d'un supermarché.
J'ai acheté du steak haché aujourd'hui. Avant, c'était entre 3 et 5 dollars la livre. Maintenant, c'est 8 dollars. Tout s'est envolé. C'est affreux. Trump, c'est le seul qui puisse arranger cela, absolument.
Derrière elle, Jay Marcus vérifie son ticket de caisse.
109 dollars pour ses courses. Avant le Covid, cela aurait été 85 dollars. Maintenant, je dois faire un choix. Est-ce que je mets de l'essence dans ma voiture pour aller au travail ou est-ce que je fais cette dépense maintenant ou plus tard ?
Mais pas de choix politique cette année pour cet employé en grande surface.
En fait, je préfère ne pas voter cette année. J'ai voté aux dernières élections Joe Biden, mais les choses ne vont pas mieux, alors je préfère rester à l'écart de tout ça.
L'Amérique doit aider son peuple, conclut ce nouvel abstentionniste résigné. Mekon, Caroline Baudry, Europe 1.
En métropole, un procès pas comme les autres s'ouvre ce soir pour nous devant la cour d'assises spéciale de Paris. 8 personnes se retrouvent dans le box des accusés, soupçonnées d'avoir participé à l'assassinat de Samuel Paty. Ce professeur avait été décapité en pleine rue le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine pour avoir montré une caricature de Mahomet en classe. Son assassin, un Russe d'origine tchétchène de 18 ans, avait été tué par les forces de l'ordre. L'ultra-violence et le club de rugby de Romans de nouveau touchés par cette violence envers ces jeunes. Il y a un an, Thomas, 16 ans, était tué en marge d'une fête dans le village de Crépol, poignardé à mort. Ce week-end, c'est Nicolas, 22 ans, qui a été victime d'une fusillade à la sortie d'une boîte de nuit. Le club lui a rendu hommage. Et puis à Poitiers, les forces de l'ordre sont toujours à la recherche de l'homme qui a ouvert le feu en fin de semaine dernière, causant la mort d'un adolescent de 15 ans. Il s'agit d'un homme d'une vingtaine d'années, connu des services de police pour détention d'armes et association de malfaiteurs. Face à la multiplication des actes d'ultra-violence, il y a en effet de quoi s'inquiéter, estime le politologue Jérôme Fouquet, invité de nos confrères d'Europe 1.
On voit comment, en 25 ans, encore une fois, les phénomènes se sont développés partout sur le territoire. On a parlé de Poitiers, on a parlé de Rennes, on parle de Nantes, donc une France de l'Ouest qui était plutôt à l'écart. Et puis les endroits où ces, violences, ces, ces violences et ces trafics existaient, eh bien les choses se sont considérablement durcies avec une montée en puissance des organisations criminelles. Rappelez-vous aussi la conférence de presse stupéfiante, sans jeu de mots, de la fameuse DZ Mafia, qui reprend le décorum du FLNC, avec une nappe blanche, un logo, et qui...
ça, c'est à Marseille, la DZ
voilà,
Mafia.
Le visage cagoulé s'adresse au procureur de la République en disant qu'ils sont pour rien dans les quelques meurtres qui ont eu lieu quelques jours avant.
Le politologue Jérôme Fouquet sur le plateau de nos confrères d'Europe 1. De son côté, le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, a appelé à un réarmement législatif pour lutter contre cette ultra-violence.